Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francis, 13h à Ouagadougou, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par les violences au Mozambique. 4 personnes blessées, tel est le bilan de l'attaque contre un convoi de la compagnie pétrolière américaine Anadarko, jeudi, dans l'extrême nord du pays. L'incursion attribuée aux djihadistes armés qui sévissent dans la province de Cabo Delgado a eu lieu sur la route reliant la localité de Mocimboa da Praia à la ville de Palma, quartier général des grandes compagnies pétrolières qui préparent l'exploitation d'un gigantesque gisement de gaz au large du Mozambique. C'est la première attaque visant directement Anadarko. La compagnie américaine n'a pas donné de détails sur l'identité des blessés, mais elle assure que leur vie n'est pas en danger. Depuis octobre 2017, un groupe djihadiste armé désigné localement sous le nom de Al-Shabaab, les jeunes, multiplie les attaques dans la province à majorité musulmane de Cabo Delgado à la frontière avec la Tanzanie. Des incursions qui ont coûté la vie à près de 200 civils et contraint des milliers d'autres à fuir leur village. Le gouvernement mozambicain a envoyé des renforts de l'armée et de la police dans la région, mais sans parvenir jusqu'à présent à rétablir l'ordre. La lutte contre les djihadistes au Sahel maintenant. Dans la région du lac Tchad, des membres du groupe djihadiste nigérian Boko Haram ont tué 5 personnes et ont enlevé 9 autres, dont 6 femmes, au cours de 2 attaques en territoire tchadien. C'est ce qu'a révélé jeudi un responsable local. Les détails avec Raïssa Girondin.
Selon Dimouya Soyapébé, secrétaire général de la province du lac Tchad, ces attaques ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Dans le premier village attaqué, Boubura, 5 personnes ont été tuées et 5 blessées, tandis que les enlèvements ont eu lieu dans une autre attaque menée contre le village d'Ngassia. Dans la nuit de mercredi à jeudi, plus de 200 têtes de bétail ont été volées et 7 éleveurs enlevés dans le même secteur dont l'un a réussi à s'échapper. Par ailleurs, sans rapport direct avec ces attaques, 5 membres présumés de Boko Haram ont été arrêtés lundi à N'Djamena. Le groupe Boko Haram sévit au Nigeria, son pays d'origine, mais mène ponctuellement des incursions meurtrières dans les pays voisins, le Tchad, le Niger et le Cameroun.
Élection au Nigeria, les Nigérians votent demain samedi pour élire leur prochain président après un report d'une semaine du scrutin qui a attisé les tensions dans cette course très serrée entre le président sortant Muhammadu Buhari et son principal rival Atiku Abubakar. Le point avec Michel Joseph.
Je veux vous assurer que les élections auront bien lieu samedi, a promis Mahmoud Yakubu, président de la commission électorale indépendante. Il n'y aura pas de nouveau report. La commission n'envisage pas de report, a-t-il insisté. Il a toutefois reconnu que seuls 19 des 36 États nigérians et Abuja, la capitale, ont déjà reçu le matériel électoral, mais il a répété que tous les États, à l'exception d'un seul, recevront le matériel à temps. Demain, plus de 84 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dans près de 120 000 bureaux de vote dans le pays le plus peuplé du continent. La campagne électorale a pris fin hier soir. Le président Muhammadu Buhari, au pouvoir depuis 2015 et qui brigue un second mandat, a appelé hier les électeurs à braver tous les défis et à aller voter. Son principal adversaire, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, a rappelé qu'en 2015, les Nigérians ont provoqué un changement de président et que demain, ils auront à nouveau la possibilité de le faire.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élection au Sénégal, la campagne électorale prend fin ce vendredi. Les candidats ont sillonné le pays pendant 3 semaines pour la présidentielle du dimanche 24 février. Que retenir de cette campagne? Pour des éléments de réponse, notre correspondant à Dakar, Sidina Abagay, s'est entretenu avec l'écrivain et analyste politique Amidou Anne, ainsi qu'avec le journaliste chroniqueur Pape Djibril Fall.
Les 5 candidats ont tous proposé des programmes, mais face aux populations, ils n'ont pas toujours pris le soin d'aller au fond des choses. C'est du moins l'avis du journaliste chroniqueur Pape Djibril Fall.
Sur les programmes, sur les offres programmatiques, sur les projets de société, malheureusement, à quelques exceptions près, on a perpétué ce qui se faisait jusque-là, c'est-à-dire aller se donner des bains de foule, des incantations politiques, mais on n'a pas pris le temps véritablement de discuter avec les populations des programmes. programme, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui est réalisable.
Cependant, l'analyste politique Amidou Anne affirme que chacun a pu faire avec ses atouts pour essayer de convaincre l'électorat sénégalais.
D'abord, le candidat sortant Macky Sall, je pense qu'il a un bon bilan économique, même si il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas durant son premier septennat, notamment sur la question des libertés publiques, sur la question de l'approfondissement de la démocratie et sur aussi la question de l'implication de la famille dans les affaires de l'État. Il fait campagne en partant de ce bilan-là, qui est quand même à bien des égards positif, notamment en termes d'infrastructure, en termes de politique sociale et aussi en termes de calme institutionnel par rapport aux deux mandats d'Abdoulaye Wade.
Passons maintenant à Idrissa Seck, qui est considéré comme le challenger le plus expérimenté.
Je pense qu'il a le meilleur programme en termes de travail scientifique, en termes de travail de rigueur, en termes aussi d'implication des techniciens et d'experts du Sénégal et de la diaspora. Et c'est quelqu'un qui en est donc à sa troisième candidature et pour moi qui est l'un des favoris avec le candidat sortant.
Et qu'est-ce que vous retenez de la campagne du candidat Ousmane Sonko?
Ousmane Sonko a un discours intéressant, notamment sur la mise sur la place publique des questions liées à la souveraineté, les questions liées à la nation, à la patrie, les questions aussi liées au modèle économique endogène. C'est un discours populo-nationaliste, mais qui trouve quand même quelque part des adhérents et des tenants, des militants aussi au sein de la jeunesse, et c'est important que ces questions-là soient adressées sans verser, bien entendu, dans la xénophobie ou dans l'indexation de l'autre comme acteur de notre malheur.
S'agissant du professeur Issa Sall maintenant.
Issa Sall est un candidat qui a un lien ambigu avec la religion, il faut le dire clairement, parce que son parti est quelque part l'émanation du mouvement religieux des Moussa Chidine. Mais c'est un candidat anti-système, un peu à l'instar de Sonko, mais qui fait preuve d'une maturité, d'une exigence de rigueur aussi, dans la déclinaison de ses ambitions, mais aussi dans ses critiques vis-à-vis du président sortant.
Et enfin, le candidat Madi Kenya, pour terminer, on a vu qu'il a accumulé beaucoup de sympathie venant des Sénégalais durant cette campagne électorale.
C'est quelqu'un que les Sénégalais découvrent, quelqu'un qui était dans la galaxie d'Abdoulaye Wade pendant 12 ans avant de s'en détacher récemment suite à l'invalidation de la candidature de Karim Wade. C'est quelqu'un qui incarne le PDS, qui n'a jamais raté une élection depuis 1974. C'est un homme courtois, élégant, mais bon, dont on tarde quand même à voir les propositions concrètes, le projet de société pour le peuple sénégalais.
Après avoir suivi et écouté les offres des 5 candidats à la présidentielle, les Sénégalais vont porter leur choix sur celui qui les aura convaincus pour présider à leur destinée pour les 5 prochaines années. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Politique en République démocratique du Congo, le tout nouveau président Félix Tshisekedi a reversé au trésor public le reliquat de son premier voyage officiel. Le point avec Eddie Sango.
Le montant remis est des 163 000 dollars américains selon les bordereaux de la Banque centrale que VOA Afrique a pu voir. Le document signé le 19 février 2019 n'indique pas les montants dépensés ni la somme totale prévue pour le voyage. Il constitue les reliquats de la mini-tournée régionale de Félix Tshisekedi d'il y a 2 semaines après son investiture. Lors de cette première sortie officielle, le nouveau chef de l'État s'était respectivement rendu en Angola, au Kenya, au Congo-Brazzaville, avant de finir à Addis Abeba en Éthiopie pour la session ordinaire de l'Union africaine. Les derniers reversements des reliquats de voyage connus dans le pays remontent au premier gouvernement du président Joseph Kassavubu et son premier ministre Patrice Emery Lumumba en 1960. Lors de son investiture, le 24 janvier dernier, Félix Tshisekedi avait promis de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille.
Actualité aux États-Unis pour terminer, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a justifié jeudi sa décision de refuser le retour aux États-Unis d'une femme originaire de l'État d'Alabama qui a rejoint le groupe État islamique en Syrie. Le secrétaire d'État a évoqué le statut diplomatique du père de la jeune femme, Claire Morin-Gibault.
Oda Mutana, 24 ans, a exprimé des remords et dit souhaiter rentrer aux États-Unis afin d'y être jugée. Une chaîne américaine a demandé hier à Mike Pompeo si le statut du père, un ancien diplomate yéménite réfugié aux États-Unis et installé en Alabama, était la raison pour laquelle la jeune femme ne pouvait prétendre à la nationalité américaine. Monsieur Pompeo a répondu « C'est exact, elle est peut-être née ici et n'a pas la nationalité américaine ». Les États-Unis accordent la nationalité à presque tous les enfants nés sur le sol américain, sauf les enfants des diplomates étrangers, car le 14e amendement précise que la citoyenneté est accordée à tout enfant soumis à la juridiction des États-Unis. De son côté, l'avocat de la jeune femme, maître Hassan Chibli, affirme que Mutana est née en 1994 dans le New Jersey et qu'elle est citoyenne américaine.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.